Et à présent, on finit avec Sur le chemin de l'école, avec Arthur qui va nous parler de révolte lycéenne, le réveil des enfants des gilets jaunes.
Eh bien oui, les enseignants l'admettent volontiers. La mobilisation lycéenne qui s'est déployée au mois de décembre dans le sillage des gilets jaunes les a pris de court. Pas seulement par la contagion rapide d'une académie à l'autre, pas seulement par son installation dans la durée, 2 semaines de blocage, pas seulement par ses excès de violence localisée, d'Aubervilliers à Orléans, en passant par Blagnac ou Mantes-la-Jolie. Ce qui interpelle les observateurs de ce mouvement de jeunesse, qu'ils soient sociologues, proviseurs ou chercheurs, c'est bien sa géographie inédite. Quelques exemples suffisent à dessiner ses contours inédits. À Paris, les grands lycées de l'Est n'ont pas joué le rôle moteur qu'ils endossent habituellement contre la loi travail, la loi Fillon, le lycée d'Arcos, le contrat première embauche. À Rouen, les chemins empruntés par les lycéens sont eux aussi venus rabattre la carte habituelle des mobilisations. Plutôt que des établissements bourgeois de la rive droite, les premiers défilés sont partis des lycées plus populaires de la rive gauche. La jeunesse des villes moyennes a fait les gros titres de la presse locale. À Digne-les-Bains, dans les Alpes, 1 millier de lycéens sont descendus dans la rue. À Cambrai, dans le Nord, ils étaient 600 à manifester. À Dijon, on en a recensé 200 devant le rectorat.
Allez !
Peut-on dès lors parler d'une mobilisation des enfants des gilets jaunes ? Il s'agit bien du réveil d'une frange de la jeunesse qui partage, avec ses parents, des fins de mois difficiles et un sentiment de déclassement. C'est l'une des grilles d'analyse retenues par l'historienne Michel Zancarini-Fournel. Sur les ronds-points s'observe une cohésion intergénérationnelle. On voit des jeunes rejoindre des retraités. C'est suffisamment rare pour être souligné. Lors de ces journées de mobilisation nationale, se font entendre des territoires périurbains, souvent très défavorisés, qui peinent à se relever de la crise de l'industrie. On assiste à une possible inversion des déclencheurs du mouvement, avance l'historien Claude Lelièvre. L'effervescence n'est pas à Paris, elle est en province et dans les petites villes, ce qui ne veut pas dire qu'elle est périphérique, souligne-t-il. Ce sont des zones très pauvres, très désocialisées que l'on voit s'animer, confirme Yann Biziou, universitaire à Montpellier. Pendant ce temps-là, certains grands lycées de Montpellier ne bougent pas. Il y a depuis mai 68 une forme de régularité dans la construction des mouvements de jeunesse qui semble aujourd'hui s'infléchir, abonde l'enseignant-chercheur Vincent Troget. Un mouvement se déclenche toujours, soit contre une réforme éducative, soit pour rejoindre une contestation sociale, explique-t-il. Dans le cas présent, les deux logiques se superposent. L'originalité est aussi là. À Nantes, où il enseigne, Vincent Troget a ainsi le sentiment que plusieurs lycées de la périphérie, contrairement aux mobilisations antérieures, ont joué le rôle de moteur. Au sein même des lycées, c'est sur le profil des jeunes engagés qu'insiste Stéphane Rio, enseignant d'histoire à Marseille. L'étincelle est partie des filières technologiques, de manière rapide et éruptive, témoigne-t-il. Ce professeur dit avoir vu, en premier, sur les blocus des jeunes peu politisés, parlant autant d'eux que de leurs parents. Des adolescents qui n'ont pas toujours les codes des bons élèves. Ils ne réclament pas d'AG, ne veulent pas nécessairement rejoindre les défilés. Ils prennent le blocage pur et simple pour tenir le lycée comme on tient un rond-point. Il semble qu'un tournant ait été pris dans le sillage des interpellations de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines et des images des 151 jeunes agenouillés, les mains sur la tête, qui ont inondé les réseaux sociaux le 6 décembre. Les jeunesses se sont unies, reprend Stéphane Rio, pour dire leur crainte commune que les réformes en cours, celles du lycée, du bac, de Parcoursup, accroissent des inégalités dont ils seront les premières victimes. Le bac ne sera plus le même selon les établissements, martèlent les lycéens. Et la sélection à l'entrée de l'université les laissera sur le carreau. Ainsi, le même sentiment de peur du déclassement apparaît chez les lycéens et les gilets jaunes.
On observe donc des rapprochements entre lycéens et gilets jaunes. De là à parler de convergence des luttes, il n'y a qu'un pas.
Et oui, un pas qui est franchi par Marouane Majrar, ancien vice-président de la FIDL, qui revendique un acte de solidarité avec les gilets jaunes face au mépris du gouvernement. Dans un entretien au journal Marianne, il explique que les actions des gilets jaunes ont donné des idées à beaucoup de jeunes qui se disent que se soulever est possible. Après avoir fait un parallèle avec mai 68, le lycéen conclut « Il faut que la jeunesse prenne toute sa part et dise « Le bulldozer Macron, on n'en veut plus ».
Et la rue, elle est taquée.
Vous avez écouté le 43e journal radiophonique amplifié de Transistor. Avec cette semaine, Benoît Auclair, Marie Douniac, Arthur Kramer, Rémi Cerda, Arthur Guérin-Turc, Maë Burla et Mathilde Picard. Avec également Arthur Kramer dans le rôle de l'hologramme de Julien Marcoux. Je salue également Félix qui n'a pas pu être en régie aujourd'hui pour cause d'agrégation. bon courage Félix, et aussi Rémi qui l'a remplacé en régie. On se retrouve dès le 10 janvier pour une nouvelle année d'actu en direct sur Transistor. D'ici là, passez de bonnes fêtes et reposez-vous bien de cet automne mouvementé.